Bon, on s'en est pas parlé dans cette émission, mais vous l'avez vu dans l'actualité, là. Les troubles à Minneapolis, là. Je veux dire, il y a beaucoup de violence, là. On en est rendu, si je ne m'abuse, à la troisième journée, troisième nuit de manifestation. Et puis là, je me suis dit, il faut prendre quelques minutes pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe là-bas, parce que ça fait suite, ça découle de la mort de George Floyd aux mains des policiers de Minneapolis, donc cette ville au Minnesota. On va aller rejoindre Don Cucciolletta, qui est membre de la chaire Raoul Dandurand et qui suit l'actualité américaine, comme toujours. Bonjour, Don.
Bonjour, bonjour Bernard, comment vas-tu?
Très, très bien, content de te retrouver. Fais juste nous résumer, là, mettons les événements, là. Mets-nous la table, s'il te plaît.
C'est que M. Floyd était à côté sur une automobile dans une rue assez passante dans la ville de Minneapolis et les policiers l'ont approché. Il est à deux. Ils ont demandé qu'est-ce qu'il faisait là. Puis lui, il dit, ben écoute, j'attends quelqu'un, et tout ça. Puis là, ils ont dit, approchez-nous, venez nous voir. Puis là, il s'est approché. Et c'est là qu'ils ont dit, on veut te parler plus sérieusement. Et là, il a dit, pourquoi? J'ai rien fait. Je suis un simple citoyen. Je suis même quelqu'un qui travaille. Il a 47 ans, cet homme-là. Là. Il n'a pas 15, 20 ans, 30 ans.
Il faut préciser que c'est un Afro-Américain. Hein?
Absolument. Ouais, c'est un ça. Noir, effectivement. Et les policiers sont blancs. Mm-hmm. Et donc, aussitôt que là, on l'approche, il y a deux autres policiers qui arrivent, puis subitement, là, il dit, ben écoutez, là, vous m'arrêtez, mais dites-moi là, pourquoi vous m'arrêtez? Moi, j'ai le droit de savoir. Et là, ils ont dit, écoutez, là, ils l'ont mis sur le côté de l'automobile, ils l'ont mis face à l'automobile, ils ont mis les menottes, puis là, effectivement, ils l'ont projeté par terre, puis là, il commençait à se débattre, puis c'est un homme assez bien bâti, hein. Donc, le policier qui était sur lui a mis le genou dans le cou, en arrière du cou, de la tête, puis il a appuyé la pression, puis là, lui, il commence à dire « I can't breathe », je ne peux pas respirer. Et ça, c'est les fameuses paroles qu'on a entendues avec Eric Gardner, finalement, dans Staten Island, il y a deux ans, où est-ce qu'une similaire situation s'est passée là-bas avec la police new-yorkaise.
Il était mort aussi.
Et donc, lui, à un moment donné, il a comme perdu connaissance, on l'a amené à l'hôpital, puis évidemment, on a vu qu'il est mort en chemin en ambulance. Donc, finalement, ça a fait le tour, on peut dire, de tout la ville de Minneapolis. Et ça a surgi, ça a sorti, ça commence à se poser des questions. Puis, il faut dire qu'on a toujours pensé, parce que c'est une ville du Nord, hein, oui. Dans un État Minnesota, qui n'est pas connu nécessairement pour des grandes manifestations violentes non plus.
Il est même reconnu comme un État progressiste, Minnesota. Hein?
Supposément, oui. Supposément, oui, il y a même les premiers partis socialistes ont été fondés là. Imaginez-vous, là, des années 20 à la fin du 19e siècle. Donc, tout ça fait qu'on est un peu surpris. Mais quand on commence à fouiller un tout petit peu la relation entre la police et la communauté noire, et aussi comment que la communauté noire comment effectivement, sur le plan économique, est-ce qu'ils sont bien nantis, est-ce qu'ils sont pauvres, on commence à voir qu'il y a une division fondamentale en cette communauté-là noire qui demeure effectivement dans les quartiers les plus pauvres, puis la communauté blanche, qui effectivement est beaucoup plus nantie, puis qui vit dans des quartiers beaucoup plus aisés. Et donc, on commence à voir finalement que ça... Et donc, c'est pour ça que finalement, quand on a entendu le maire qui est un blanc, puis il a parti le gouverneur aussi qui est un blanc, ils ont été surpris que ça se passe au Minneapolis, mais effectivement, comme beaucoup de monde qui travaille, disons, comme dans le milieu social, dans cette ville-là, disent non. Et on sentait que ça s'en venait, ça s'en venait une étincelle. Et on a eu l'étincelle, puis c'est ça qui est arrivé. Puis là, on sait que pendant trois jours et trois nuits surtout, il a brûlé, la ville a quasiment brûlé, les chars de police brûlés, un poste de policier brûlé, et ça s'est répandu à travers 10 villes aux États-Unis. Louisville, Phoenix, Los Angeles, Denver au Colorado, New York, Columbus en Ohio, effectivement, puis les manifestations, puis les confrontations se poursuivent.
Ce qui a contribué à créer la colère, à susciter la colère, c'est que au début, les policiers ont dit qu'ils agissaient en état de légitime défense.
Oui.
Et c'est parce qu'une vidéo qui a été tournée, j'imagine, à leur insu, elle a été publiée sur les réseaux sociaux. Et là, on a vu que c'était pas du tout le cas. Le gars était vraiment, il collaborait.
C'était une agression. La seule chose qu'il a dit aux policiers, c'est « Si vous voulez m'arrêter, dites-moi pourquoi. » puis il a le droit de savoir, hein, puis c'est dans la Constitution américaine et probablement la Constitution de l'État du Minnesota aussi. Si on accuse quelqu'un, on doit lui dire pourquoi qu'on l'arrête et c'est quoi, etc., etc. Mais c'est pas le cas, là. Donc, effectivement, la personne qui a pris la vidéo, c'est sur la vidéo. Sinon, est-ce qu'on l'aurait su? Probablement après, mais évidemment, on aurait eu finalement, on peut dire, des témoignages contradictoires, comme on a vu dans d'autres cas.
Affaires,
mais celle-ci, là, effectivement, là, c'est clair. C'est bon. Ça sur la vidéo, puis les médias sociaux, ils l'avaient partout.
Puis là, il y a eu, c'est quoi? C'est quatre policiers qui ont été congédiés, dont en fait, est-ce que c'est les quatre policiers qui étaient impliqués dans l'incident? Ils ont tous été congédiés?
Les quatre sont impliqués, mais à différents degrés. Il y a seulement un, M. Gauvin, qui s'appelle, qui est le seul, finalement, qui est vraiment le genou sur la nuque de la personne en question, M. George Floyd. Mais les autres, vu que finalement, ils l'ont aidé aussi à l'accoster, lui mettre les menottes et tout ça, bon, ça va dépendre. Mais ils ont été suspendus, mais encore, au moment qu'on se parle, on n'a pas encore les accusations. Il paraît que ça va être le procureur général du comté de Minneapolis qui devrait apporter les accusations. Ce n'est pas fait encore au moment qu'on se parle. Moi, j'aurais pensé que ce matin, avec le discours du gouverneur de l'État du Minnesota, le gouverneur aurait dit, ben moi, je prends la responsabilité et j'accuse, puis mes procureurs d'État vont prendre la charge. Mais là, il a dit, non, c'est le procureur de la comté de Minneapolis, la ville, pour effectivement mettre en place les accusations. Mais là, on attend encore.
Il serait temps qu'il bouge, en tout cas, parce que c'est en train de devenir un enjeu qui dépasse largement les frontières du Minnesota. Là, je vois Barack Obama a dénoncé, là, ça vient de m'être apporté, dénoncer la mort de George Floyd.
Oui.
Trump a tweeté là-dessus. Biden aussi s'en est mêlé.
Oui.
Est-ce que tu penses que ça
s'est rendu dans la scène politique, c'est évident, sauf que ce que M. Trump a dit, c'est beaucoup des imbécilités, hein, quand même, là, je veux dire, c'est pas comme ça qu'on doit répondre à une situation comme ça.
Qu'est-ce qu'il a
Puis
dit?
Puis M. Biden, lui, il a dit, finalement, ceux qui font des protestations, il faut que ça tente d'avoir des balles.
Il a dit ça? Là. Trump a dit ça?
Oui, sur son compte Twitter. Avec un affinement, il y avait comme un petit... parce que maintenant, les comptes Twitter sur M. Trump marquent, effectivement, ça, c'est pas... c'est du fake news.
Allez vérifier les faits, là, ouais, c'est
voilà,
ça, le petit
exactement.
Message.
Donc, lui, il a pas été content de ça non plus, mais M. Biden a dit, ben, mettons une enquête. Une enquête, OK, mais les enquêtes, ça prend un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Donc, finalement, on met ça autour du tapis et je pense que les gens... Écoutez, ça fait des années, on le sait, qu'aux États-Unis, il y a un racisme systémique à différents niveaux de gouvernement et aussi au sein des corps policiers à travers les États-Unis. Les exemples, il y en a plein à regarder. Puis, effectivement, la communauté noire, avec leurs alliés, les hispanophones, les gens, la communauté blanche, les moins nantis... des travailleurs et des travailleuses qui travaillent avec la communauté africaine-américaine aussi. Finalement, écoutez, là, les gens ont dit « on a assez ». Et c'est pour ça que ça a commencé à Minnesota, mais ça s'est répandu dans 10 villes américaines. Puis qui sait si c'est pas à soi, il n'y aura pas d'autres villes américaines qui amènent la manifestation. Puis là, à Minneapolis, c'est bien clair, le gouverneur a dit « mais il faut qu'on ait de la paix, il faut qu'on ait de l'ordre, donc c'est la garde ».
La garde nationale.
Dans la garde nationale du Minnesota, finalement, dans une situation d'urgence, on va mettre l'ordre, puis à partir de l'ordre, on va commencer à regarder comment qu'on va changer la situation. Mais écoute bien, là, ça fait longtemps que les Noirs entendent ce discours-là, là. Ça fait des années et des années et des années. Et puis en plus, le gouverneur, j'ai comme l'impression, et puis même le maire, connaissent pas qui sont les leaders de la communauté noire de cette ville-là. Parce que dans le discours du gouverneur et même celui du maire, ils ont commencé à dire, ben, Jesse Jackson nous a appelés, il a mentionné même que la paix de Martin Luther King. Mais dans la communauté noire aujourd'hui, parmi cette nouvelle jeunesse, c'est pas la vieille communauté. Elle est jeune aujourd'hui. Puis elle est très active politiquement. Black Lives Matter en est un exemple parmi tant d'autres. Qui fait que ces gens-là disent, écoute, il aurait dû appeler les leaders de la communauté noire à Minneapolis, mais j'ai comme l'impression, après le discours du gouverneur et du maire, je dis, ils les connaissent-tu, ces gens-là?
Il est déconnecté. Ils sont déconnectés. Don Cucciuletta, spécialiste de l'actualité américaine. Merci beaucoup, Don.
Au revoir.
Luc, toi qui suis la politique américaine, dis-moi ce que tu penses de ça.
Ben d'abord, Don a été un peu plus doux que nécessaire. Ce que Trump a dit, c'est épouvantable. Dans son tweet, ce qu'il dit, c'est « on va envoyer la garde nationale, blablabla, bla, bla, et aussitôt que le pillage commence, la fusillade commence. » Oh boy!
Il a publié ça quand, là?
Oui, hier soir, et ce matin, bon, Twitter l'a carrément bloqué, et la Maison-Blanche a repris exactement sur le compte de la Maison-Blanche exactement le même tweet. Là. Je sais pas s'ils ont décidé de le bloquer, celui-là aussi, mais en tout cas, il a circulé.
Donc, c'est une forme d'incitation à tirer dans la foule, c'est
ouais,
ça?
Oui, à tirer dans le tas, oui. À tirer dans le tas. C'est pompi. Évidemment, Trump trouve moyen de parler du maire qui est gauchisant. Ce sont des démocrates qui sont au pouvoir là-bas, autant à la au niveau municipal qu'au niveau de l'État.
Ça peut-tu déraper, cette affaire-là? Déraper dans d'autres villes américaines, mais devenir... On sait qu'il y a eu des manifestations ailleurs, mais quand je parle de dérapage, tu comprends ce que je veux dire, là. Comme on a déjà eu aux États-Unis, là, des centres-villes qui flambent, là.
Ça, je peux pas répondre vraiment à ça, mais ce que je pense, par exemple, c'est que ça vient ajouter au fardeau d'être Donald Trump. C'est que là, on est arrivé à un point, là. D'abord, aujourd'hui, il doit faire une conférence de presse pour annoncer qu'il va expulser des centaines de milliers d'étudiants chinois. Il sacre le feu partout. Et ça, cette histoire-là de Minneapolis, c'est... D'abord, il est pris avec quelque chose. Moi, j'ai jamais vu des images aussi précises. Tu sais, on a vu souvent des images tournées par des passants dans des crimes, tout ça. Mais là, tu vois très, très clairement, nettement, t'entends qu'est-ce qui est arrivé. En fait... Ce qui, moi, me choque plus que tout le reste, c'est que le fameux policier qui a le genou sur la gorge, à un moment donné, non seulement le gars est en train de crier « je suis pas capable de respirer », il choisit de mettre ses mains dans ses poches, comme un geste de désinvolture, sans retirer son genou. Bien, évidemment, le gars est mort quelques secondes plus tard.
Mais tu dis qu'est-ce que c'est? Faut vraiment que...
Il faut vraiment être raciste, pas à peu près.
J'allais dire, il faut que tu te foutes de la vie du noir que t'es en train de faire mourir pour agir de cette manière-là. Je veux dire,
il n'y
a pas...
Il y avait quelque chose de... Moi, je trouvais dans l'image, en tout cas, quelque chose non seulement de cruel, mais de sadique.
Oui.
Et cruauté et sadisme, ça ressemble beaucoup à l'époque du Ku Klux Klan. Est-ce qu'on est en... Tu sais, à force d'être tolérant à l'égard du racisme, je le dis depuis que Trump est là, on banalise la chose. C'est comme si on l'autorise à nouveau. C'est comme si on dit ça dormait dans vos cœurs depuis 3-4 générations, mais au fond, vous avez toujours pensé la même chose. Ben, donnez-y à cœur joie. Allez-y, alors. Ce pays-là est malade, tu comprends? Il y a une maladie au cœur du pays qui est en train de le ronger et qui est alimentée par des espèces de groupes extrémistes à la tête desquels se trouve le président lui-même.
Mais c'est ça que j'allais dire, c'est que Trump alimente ça. Trump nourrit, ce ressentiment, cette haine.
Ouais, il y a à peu près, à l'œil, comme ça, on pourrait dire entre 30 et 35 des Américains qui semblent porter une rage au cœur contre le monde entier, en tout cas, puis qui fait ressortir tout ce qu'il y a de plus mauvais chez l'être humain, et t'as un président qui, lui, prend de la gasoline puis en jette dessus. Allez-y. C'est vraiment dramatique et tragique.
On se rappelle un peu plus tard, Luc.
Tantôt.